tout de suite votre émission Culture et Spiritualité sur RCF Nice Côte d'Azur. Le Père Vincent-Paul Toccoli vous propose une méditation autour de son ouvrage Le Petit Traité de la Compassion.
C'est à la mémoire plus qu'à l'histoire que s'apparente le récit de vie, entreprise dérisoire aux vastes étendues lacunaires, qui essaye de dire des morceaux d'existence cherchant à devenir une vie, précisément. Raconter pour exister. Et peut-être vivre comme on se raconte. Que signifie une vie intéressante, une vie sensationnelle? Que sont les sommets remarquables, racontables, dissibles, confiables, des massifs compacts d'une existence tapis dans le ciel bas? À écouter quelqu'un se raconter, à l'écouter attentivement, surtout si le cœur écoute lui aussi, l'auditeur peut saisir l'argument d'une vie, son thème, au-delà des variations. La ligne de crête de la chaîne, la ligne de vie au milieu des rides de la main. Nos récits sont déclencheurs de récits, comme nos silences verrouillent le silence. Mais les silences dans le récit ne crée ni le vide ni la stupeur. Il favorise, au contraire, liberté et créativité. Mon récit personnel, soudain, se développe en écho de l'autre et de sa parole. Les mots, leur tonalité, toutes les connotations émotivo-affectives résonnent alors plus fort et autrement que leur contenu objectif plat. Dans le rébus de nos vocabulaires, le jeu de nos expressions, les chevaux de notre syntaxe, lui, brusquement, le condensé fulgurant de l'avenir, relié avec du passé non encore totalement enfoui, oublié, refoulé, mais qui était là en attente d'être appelé à vivre à nouveau. Comme la belle au bois dormant attendait un contact, le baiser du prince charmant, pour revenir à elle. Et d'un coup, le château tout entier reprend vie, à l'endroit et au moment même où tout s'est figé, mort. En traversant les barrières d'épines, en versant son sang pour parvenir jusqu'à elle, le prince réamorce, déclenche, lèvre contre lèvre, bouche à bouche, parole à parole, une vie en attente de revivre. Et la parole engendre la parole, comme la mémoire engendre la mémoire et la vie la vie. Le récit de vie ne se réduit pas à l'énoncé, stylistiquement plus ou moins valable, de nos mésirables non-événements quotidiens. Il catalyse une double opération. Tout d'abord, la mémoire effectue un véritable travail d'élaboration, constitutivement sélective, esthétique et théologique. Elle trie, ordonne et dirige. Elle rend le passé intelligible, acceptable, réconfortant. Le contraire se rencontre chez un esprit troublé. Les presses de la mémoire ne sortent chez lui qu'un journal incompréhensible, insensé, intolérable, douloureux, et accusateur, culpabilisant. La lettre y tue parce que l'esprit s'y est tu. La parole est retombée dans le dictionnaire pour redevenir des mots. La belle a rechuté en léthargie, et tout le château avec elle. Le charme du prince opérera-t-il à nouveau? Peut-on redonner aux mots l'esprit qui les transformera en paroles? Ensuite, le récit lui-même, qui n'est que la mémoire racontée, accomplit pour sa part une tâche de réhabilitation. Structurellement narcissique et théâtral, il partage avec le travail d'élaboration de la mémoire d'être lui aussi téléologique. Le conteur de soi tient le beau rôle, se met en scène, y a du succès. Il se satisfait, emporte l'adhésion et se fait reconnaître. Tout, ici surtout, est en matière d'équilibre, de négociation et de tolérance, le processus peut gravement dysfonctionner. La prestation chute alors, et sombre parfois, dans l'autosatisfaction, hybris, le complexe de supériorité, paranoïa, et la fascination de l'échec, sadomasochisme. L'esprit troublé a profané au lieu de proférer la parole. Il l'aura détournée de son sens à elle pour la rendre otage, de son sens à lui. La parole ne peut plus, dans ces conditions, nommer le réel et par là le convoquer à la vie. Le réel n'importe plus, on se contentera du nom dont on l'affuble, le nom pour la rose. À force de raconter sa propre histoire, on se surprend à distinguer de plus en plus difficilement, à discerner donc, non pas le vrai du faux, mais ce qui historiquement est arrivé et ce que nous avons dû dire aussi pour compléter, expliquer, illustrer. Ce travail d'élaboration est coextensif de tout ce que nous rapportons. Nous ne fonctionnons pas autrement pour dire le passé depuis le présent. Et la mémoire reste multiple. Et pourtant, c'est bien en se racontant à lui-même, ou pour notre petite enfance en écoutant quelqu'un nous raconter, que chacun se construit un passé, une vie, un destin. A posteriori, et de même que l'être humain grandit, change, évolue, se transforme, sa vision de lui-même et le récit qu'il en fait prend une autre dimension. S'il faut avoir quelque peu vécu pour composer sa biographie, cela implique qu'il faut n'être plus ce qu'on était pour pouvoir s'en rendre compte et s'en faire part. Un certificat de non-décès s'établit en présence de deux témoins. Le non-décédé n'étant pas habilité à montrer par sa présence qu'il est en vie. Ainsi l'exercice de l'anamnèse, remonter le temps pour l'explorer bien sûr, mais surtout pour en reconstituer l'épaisseur et se le réapproprier. Non pas pour s'identifier à ce passé, ce serait une fixation. Pour l'identifier lui comme passé et comme mon passé. À la fois pour prendre du recul et évaluer mon avancée par rapport à lui. Me situer dans le temps, dans son temps et dans mon temps actuel. Savoir qu'on porte la même identité sans être plus celui-là. On est devenu cet autre qui se constate ici et maintenant et qui s'estime à sa valeur actuelle. Ceci ne peut se faire qu'en se racontant d'une manière ou d'une autre. Le récit d'une vie peut jouer, pour celui qui souffre ou se meurt, le rôle d'un ultime signe de reconnaissance de soi. Ultime et suprême preuve de réconciliation avec son passé, avec sa mémoire, avec soi-même. L'enfant demande régulièrement à sa mère « Maman, raconte-moi comment c'était, comment j'étais quand j'étais petit. » Et la maman raconte, et l'enfant reçoit, d'un autre que lui-même, de l'information sur soi qu'il ne connaissait pas. Régulièrement, ai-je dit cela, et la maman, l'autre, raconte à nouveau, mais jamais de la même façon. Détails, organisation de la narration, version courte, version longue, voix, tonalité. Le récit sera inévitablement différent pour rapporter le même et la même histoire. Toutes ces relations successives ne se neutralisent pas entre elles. Elles se développent, au contraire, autour d'un tissu conjonctif qui s'impose peu à peu et va constituer l'histoire définitive. Non pas qu'il soit indifférent que les choses se soient passées comme ceci plutôt que comme cela, parce qu'elles se sont passées, en fait, et comme ceci, et comme cela. Autorisons chez l'autre qui parle, et cette version-ci, et cette autre version. Le sens des événements dépasse leur contingence. Il est multiple et le même. C'est le paradoxe du temps vécu par rapport au compute événementiel. Accompagner ici celui qui avance en avant, dans son anamnèse en arrière, le récit de vie se transforme en navette performante capable de relier ce qui se passe, en train de vivre, mourir, ce qui s'est passé, la vie derrière soi, et ce qui va encore se passer, la vie devant soi. S'il peut encore parler, demandez-lui, comment c'était avant, dites-moi. Dans cet avant, il y a tout, l'autre comprendra. S'il se met à parler, ne dites plus rien. Écoutez votre oreille à la porte de sa mémoire. Écoutez. Retenez tout. N'intervenez que pour réamorcer. Sans oublier que le silence peut exprimer une ponctuation, une pause, un soupir. Et quand l'autre s'arrête, vraiment, retirez-vous, rentrez chez vous. Et rédigez ce dont vous vous souvenez. Devenez sa mémoire écrite. Écrivez une histoire. Son histoire. Oh, pas un panégyrique, pas une légende dorée, seulement ce que vous avez appris de lui-même, par lui-même, rewriter sa vie. À la visite suivante, dites-lui que vous aimeriez bien lui lire quelque chose. Maintenant, l'autre va apprendre de vous quelque chose de lui. Et s'il réagit, écoutez, enregistrez, retenez, et en rentrant, rewriter la seconde version. Quand vous retournerez le voir, c'est lui qui alors attendra la suite du feuilleton dont vous l'avez fait, version après version, le héros. Ah, le voici qui s'intéresse à sa vie. En réinvestissant sa mémoire grâce à sa propre histoire que vous lui avez racontée. Le vrai ne sera pas un pâle compromis de toutes les versions, ni leur juxtaposition. Le vrai sera la personne que l'autre sera devenue en élaborant par votre truchement le récit de sa vie. Personne multiple, complexe, riche, il s'apercevra qu'on ne peut le réduire à la simple somme de tout ce qui lui est arrivé. Il comprendra qu'il est encore plus que cela, et qu'on pourra et qu'il pourra toujours dire quelque chose qui, pour n'être éventuellement pas compatible avec ce qui précède, n'en est pas moins paradoxalement lui. Le récit ainsi est édifiant, il construit. Architecte du temps, la vie de l'histoire est sa seule vérité. De notre petite enfance, nous ne saurons jamais que ce qu'une mère, une marâtre, une nourrice aura daigné nous en rapporter. Entre les appréciations scolaires et les discours projectifs, revanchards parfois de nos parents, notre tendre jeunesse a fort à faire avec ses propres souvenirs. Et bien souvent les adultes, quand ils parlent des jeunes, semblent avoir tout à fait oublié qu'ils l'ont eux-mêmes été, au point qu'on se demande s'ils l'ont jamais été. Notre existence est un mystère, et elle le restera, semble-t-il. Tout récit est une interprétation, et tant que nous vivrons, nous n'aurons jamais accès aux interprétations, comme pour la musique.